Bonjour à tous, donc je vous disais, bon, nous allons aborder un sujet, enfin on a eu trois événements sur le numérique dans cette université d'été, là c'est le dernier, ben, je crois que ça, bon, il y a un vrai problème de pile, mais c'est pas grave, je vais le faire à cappella. Aujourd'hui, révolution numérique. Donc, juste avant de passer la parole à Marc Clavastrou, qui est un des acteurs de cette révolution numérique dans le sud-ouest de la France, je voudrais donner quelques petits points de repère. Bon, d'abord, pour vous donner un peu l'ampleur de ce à quoi on est confronté, bon, faut savoir que tous les 18 mois, la puissance de calcul des microprocesseurs double. Tout les ans, les capacités de stockage numérique doublent, et tous les 9 mois, les débits des réseaux numériques aussi doublent. Et qu'on est dans une situation où, en l'an 2000, à peu près 25% des informations, je dirais dans les pays émergents et dans les pays développés, 25% des informations produites par la société étaient stockées d'une manière numérique. Maintenant, c'est 98%. En 2020, nous serons entourés de près de 30 milliards d'objets connectés, ce qui est gigantesque. Et quand je dis objets connectés, ça va de votre compteur électrique à votre poubelle, en passant par vos vêtements, qui enregistreront en permanence des données sur vous. Et en même temps, plusieurs études convergentes disent que cette révolution numérique va supprimer près de 48% en Europe des emplois existants, voire des métiers qui existent à l'heure actuelle, alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres emplois qui se créent, mais vous voyez en 10 ans le choc que ça peut représenter. On parle pour la France de près de 5 millions d'emplois qui vont disparaître, et dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine industriel, ça peut être le domaine des services, voire des emplois très qualifiés. Donc on le voit, le numérique participe de toutes les activités humaines et les révolutionne. Il est au cœur des contradictions actuelles du développement du capitalisme, et on est dans une situation où avec le numérique, la conception, l'innovation et la création sont de plus en plus socialisées, puisqu'on arrive à des projets où près de 10 000 personnes sur toute la planète travaillent sur le même projet, et en même temps la production de biens et de services se décentralise. Donc un peu un mouvement inverse de la deuxième révolution industrielle. Le cadre de la création de valeur, maintenant, n'est plus seulement l'apanage des entreprises. L'usager sur Internet est aussi un contributeur, et dans presque tous ses rapports au numérique, il produit des données, des interactions, il produit de la valeur. La propriété privée, dans ce cadre-là, la propriété privée, la concurrence, sont des entraves au développement de cette révolution numérique, mais ça ne va pas sans contradiction, ça, parce que je pense que ça viendra dans le débat, ça ne va pas sans contradiction sur les notions de propriété intellectuelle, de droit d'auteur et de brevet. Et je crois qu'avec la révolution numérique, comme le montre le succès des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires, la coopération et le partage se relèvent bien plus efficaces que la concurrence et la privatisation. Mais si bien sûr le combustible de cette révolution numérique, c'est le partage des savoirs et des savoir-faire, c'est son carburant, ça rentre en contradiction avec un capitalisme qui se nourrit de l'exploitation et du pillage des fruits de cette révolution et qui fait tout pour la privatiser, pour créer de nouvelles enclosures. Et juste avant de donner la parole, pour se résumer, on voit que ça bouscule toute cette révolution numérique, bouscule toutes nos institutions et nos manières de produire et de vivre. Ça bouscule la question du salariat. Je vous renvoie à un petit article que j'ai fait dans l'UMA sur le développement du capitalisme de plateforme et en particulier Uber. Ça met en cause le fonctionnement actuel des institutions, de la commune, l'État, et même au niveau international, et comme vous le savez, les institutions sont toujours le produit de rapports de force. Ça met en cause, bien sûr, le droit tel qu'il existe, la politique. On ne peut plus faire de la politique de la même manière depuis qu'il y a les réseaux numériques et en particulier les réseaux sociaux. Donc il y a un avant et il y a un après. Et cette révolution numérique, ça implique de nouveaux cadres politiques, un nouveau droit, de nouveaux systèmes fiscaux et surtout la création de nouveaux rapports de force. Parce que c'est devenu un champ de bataille de la lutte des classes, cette révolution numérique. Avec à la fois une tension énorme entre les volontés prédatrices du capitalisme et en même temps le potentiel émancipateur et libérateur de cette révolution. Et c'est pour ça que notre parti ne peut pas ne pas s'investir, ne pas réfléchir, ne pas agir et ne pas surtout aller au contact des principaux acteurs de cette révolution numérique. Et je vais passer tout de suite la parole à un de ces acteurs. Marc.
Merci. Je ne sais pas si je suis je sais pas si je suis vraiment un acteur. En tous les cas, comme vous tous et toutes ici, je suis effectivement sur Internet. Enfin, je travaille un petit peu là-dessus. Au moment où Yann m'a invité à venir participer à cette table ronde, c'était à la fin du mois de juin. Et en guise d'introduction, je vais vous rappeler un peu ce qui s'est passé au mois de juin dernier. Si ça a bien marché.
Parfois, elle se révolte, la révolution numérique.
Il y avait la loi sur l'enseignement qui a été votée, et une poignée de députés et sénateurs ont voté contre, notamment une que vous connaissez très bien, sénatrice, avait déclaré au Sénat, je vais vous le lire, il y avait une pétition qui avait circulé sur Internet, et justement, on interrogeait la pétition et la loi. Donc Cécile Kuckerman disait « Nous avons tendance à penser que les citoyens ne sont pas dupes, comme en témoignent les 138 000 qui ont signé la pétition contre le projet de loi et qui posent une question très pertinente, qui nous protégera contre ceux qui nous protègent ?» C'est en répondant à cette question, qui surveille les surveillants, que cette loi devrait s'assurer de l'équilibre entre surveillance massive et protection des libertés individuelles. Or, il n'en est rien. Alors, le même jour, étonnamment, on apprenait que la NSA avait surveillé massivement l'Elysée sous Chirac, Sarkozy et Hollande, secret de Polichinelle, puisque s'il en est, puisque Snowden vous l'avait déjà dit, et depuis très longtemps, puisqu'on peut aussi remonter au plan échelon, qui était une collaboration entre États-Unis et Royaume-Uni. Bon, c'est des pratiques qu'on connaît tous et toutes, et que la France également fait. Alors, ces deux événements tendent à montrer que, pour les politiques, Internet doit être surveillé, contrôlé, ce qui remet un petit peu en question les fondements même de notre nation française, les fondements de la Révolution française de 1789. Et il est vrai que la mythologie qui entoure les révolutions arabes, notamment au niveau des réseaux sociaux, comme si ça avait été un élément déclencheur, alors certes, ça a cristallisé les frustrations en Tunisie, en Égypte, mais il a fallu quand même qu'ils descendent dans la rue pour faire la révolution qu'ils ont faite. De même, certains sociologues remettent et renuancent un petit peu aussi la place de Facebook dans les émeutes de Londres en 2010. Donc, c'est un petit peu un fantasme auquel il faudrait aussi ajouter, comme un objet un petit peu dangereux, le darknet, donc ce fameux envers du net, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que comme s'il y avait un endroit du net, vu que c'est décentralisé et sans centre, ça me semble un petit peu contradictoire. En tous les cas, dans le darknet, on trouverait drogue, armes, services sexuels, tueurs à gages, contre payables en bitcoins. Les bitcoins sont quand même assez difficiles à avoir. Si vous voulez une Kalachnikov, il vaut mieux prendre le bon vieux service du particulier à particulier, dans certaines villes. Parce que pour avoir du bitcoin, il faut avoir déjà un serveur, quelques compétences informatiques pour construire et faire ces bitcoins. Donc si vous voulez avoir quelque chose rapidement, il vaut mieux aller voir les particuliers. Le lendemain, le 25 juin, Yann en a parlé, manifestation des chauffeurs de taxi dans les grandes villes, contre une concurrence qu'ils estiment déloyale, Uber, à juste titre. Et là, évidemment, Internet n'est plus une menace pour la sécurité de l'État ou les citoyens, mais une menace contre un secteur d'activité, en l'occurrence les chauffeurs de taxi. Et on a beaucoup glosé sur cette manifestation, il y a eu beaucoup de choses un peu contradictoires qu'on a dites. Mais Michel Bowens, qui est un défenseur des biens communs, a rappelé que l'application Uber n'était pas une application pair à pair, dans le sens où l'algorithme qui permet de mettre en relation un usager d'un smartphone avec un automobiliste n'était pas ouvert aux usagers. Donc ce bien commun qui met en relation deux personnes est la propriété d'Uber. Après, ça pose des questions sur le salariat. Ils ne sont pas salariés d'Uber. La déclaration de tous ces revenus-là, mais ce n'est pas un bien commun, c'est vraiment une économie capitaliste, et les profits ne vont pas en France, mais vont aux actionnaires qui sont dans la Silicon Valley. Donc, il y a pas mal de contradictions avec Internet, et il est vrai que l'origine d'Internet est un petit peu ambiguë. Alors, il y a un ouvrage extrêmement intéressant à ce sujet-là, qui est une biographie d'une personne très influente dans les années 60-70, Stewart Brand, dont on a parlé hier au niveau des hackerspace. Stewart Brand a traîné un peu partout aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, au MIT, donc à Boston, dans la Silicon Valley, donc à San Francisco, a beaucoup voyagé aussi également dans les communautés hippies, a rencontré le Grateful Dead, pris du LSD, bref. Ce personnage-là a mis en relation, il a fait un peu le mariage de la carpe et du lapin, il a mis en relation les hippies avec des laboratoires qui étaient financés par l'armée américaine, au MIT par exemple, et mis en relation avec les multinationales, des hackers, à San Francisco. Et c'est cette préhistoire du net qui montre un peu toutes les contradictions qu'on connaît aujourd'hui. Contradictions, je me perds un petit peu, mais je vais me retrouver... C'est Linux, vous savez, c'est ce fameux logiciel libre. Des fois, ça plante avec des logiciels propriétaires comme PDF. Et c'est ce qui se passe maintenant. Mais ça va marcher. Hein. Je vais devoir défendre le logiciel libre, alors ça me gêne un peu. Donc, c'est voilà, j'y reviens. Stewart Brand, donc ce garçon-là, en 85... va créer un premier forum un petit peu dématérialisé qui s'appelle le WEL. WEL pour World Earth Electronic Link. C'est une entreprise, c'est un forum comme on connaît aujourd'hui, à la différence qu'il est payant. Et tous les cadres de la Silicon Valley vont s'y mettre. À l'époque, il y a une restructuration des grandes entreprises. On travaille par projet, non plus par un système hiérarchique. Et donc les CDI ont tendance à disparaître et on commence à faire un petit peu de salariat sur projet. Et donc le WEL commence à permettre aux gens de se mettre en relation et passer d'IBM, Microsoft, de Microsoft sur Apple, puisqu'Apple a créé son premier ordinateur en 84. Et parallèlement, je vous rappelle que c'est autour des années 80 qu'on va commencer à breveter le vivant aux États-Unis et breveter aussi les algorithmes. Donc non plus les logiciels, mais les formules mathématiques qui sont un petit peu l'essence du logiciel. Parallèlement à ça, pour voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, on a aussi Richard Stallman, que vous avez peut-être vu l'an dernier à la Fête de l'Humanité, qui lui va poser les jalons du logiciel libre dès 84-85. Donc on a les deux choses, le propriétaire et ce qu'on va appeler aujourd'hui les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, qui vont eux évidemment se positionner sur un modèle économique sur la propriété intellectuelle, essayer de poser un monopole, Apple par exemple, Microsoft, et les logiciels libres. Alors on peut penser que ce monopole-là, finalement, ça remet en cause quand même pas mal les libertés sur le net, la neutralité du net, le partage et la liberté qui sont un peu les trois fondements d'Internet et de ce que c'est que Internet. Et on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose à faire passer ces 4 ou 5 gros rouleaux compresseurs que sont Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Et seulement, il y a tout de même des solutions un peu plus équitables et un peu plus justes qui apparaissent. notamment autour de du concept de bien commun ou de commun, c'est plutôt le terme qu'on utilise aujourd'hui, développé et défendu par un grand nombre de personnalités, pour en citer quelques-uns, Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, quelqu'un qui va venir à la Fête de l'Humanité, Vandana Shiva, qui est militante écologiste indienne, là aussi, femme extrêmement courageuse, puisque une femme en Inde, là aussi, le rapport de genre est extrêmement compliqué, et l'Inde a été l'un des pays les plus spoliés au niveau des ressources naturelles par nos chers laboratoires pharmaceutiques. En France, pour faire finir le tour de France, le tour du monde, il y a l'association VECAM et quelques collègues français à Toulouse, Geneviève Azam qui est aussi militante à l'attaque, et à Caen, Hervé Le Cronier, dont j'aurai l'occasion de parler. Alors, du coup, je me suis beaucoup posé de questions cet été parce que Yann m'a défini comme un acteur du numérique. Mais je dois vous concéder une chose, c'est que je ne sais pas ce qu'est le numérique. Ou du moins, c'est tellement vaste qu'il va falloir quand même faire des choix dans cette intervention. Et du coup, je vous propose comme axe de réflexion, c'est dans quelle mesure cette notion de commun que je vais vous définir par la suite peut-elle servir à mettre en place des éléments d'une révolution numérique d'ordre culturel et anthropologique. Alors, pour ce faire, je vais vous définir ce que c'est que les communs, par une définition et par des exemples. Alors, je ne les prendrai pas dans le numérique, rassurez-vous, je les prendrai dans le domaine gastronomique, le fromage, le surf, je vais vous parler peut-être des pommes si j'ai le temps. Et puis ensuite, on va voir un petit peu de quelle manière le logiciel libre peut-il être considéré comme un commun et en quoi le logiciel libre peut-il être un vecteur d'innovation, une réponse à la crise de l'innovation et à la crise du capitalisme qu'on connaît aujourd'hui. Et pour finir, je suis membre du collectif Savoir Commun, ça c'est bien marqué sur l'écran, on défend nous ce qu'on appelle les biens communs de la connaissance, c'est-à-dire l'accès au domaine public, l'accès à la connaissance universitaire. Et donc je vais parler un petit peu de cette partie-là, sur les parties de la culture et de la connaissance à l'ère du numérique. Qu'est-ce que ça change et quelles sont les solutions face encore au rouleau compresseur? Là, c'est plutôt Amazon et Apple, entre autres. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Alors, je vais donc commencer par la définition des communs. C'est dommage que ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Un Américain, grand militant des biens communs, a publié un ouvrage en français, enfin français, ça a été traduit en français en 2014, qui s'appelle « La renaissance des communs pour une société de coopération et de partage ». C'est un ouvrage pas très grand, il fait 150 pages à peu près, c'est un ouvrage vraiment introductif sur les communs, vraiment très intéressant. Il donne une définition très simple. Un commun, c'est une ressource, plus le symbole en plus, une communauté, plus un ensemble de règles sociales. Et ces trois éléments doivent être conçus comme formant un ensemble intégré et cohérent. Alors, j'insiste un peu sur les symboles mathématiques parce que ça ressemble vraiment à une équation qui a l'avantage d'être très simple. Trois éléments, donc une ressource, une communauté et des règles sociales. Mais ça masque mal un grand nombre de variétés de ces règles sociales, de ces communautés et de ces ressources. On ne va pas gérer une pêcherie en Indonésie, comme l'a étudié Elinor Ostrom, de la même manière qu'on va faire du fromage en Tarentaise. On ne va pas protéger une ressource d'eau, on va dire une nappe phréatique en Bolivie, comme on pourrait le protéger ici en France. Il y a aussi tout le climat culturel et historique qui rentre évidemment en jeu. Et pour ce qui nous intéresse, on ne va pas forcément gérer la gestion d'un bien commun matériel, foncier, comme un numérique, puisqu'on est dans le numérique, dans l'ère de l'abondance. Si j'affiche une page internet, vous pourrez aussi y aller, tous. Donc, je ne vous prive pas de l'accès à cette connaissance si j'y vais. Alors, en tous les cas, cette définition-là, que je ne pourrais pas être une communauté, un ensemble de règles sociales et une ressource, a l'avantage de mettre un terme définitif à une longue, très très longue, un très long mensonge, n'ayons pas peur des mots, d'un autre Américain qui a publié un article dans la célèbre revue Science, qui ne publie pas forcément des choses très très bien, même aujourd'hui, qui a donc écrit un article qui s'appelle « La tragédie des communs ». Et je vais vous lire un passage de cet article-là, et vous allez voir toute la naïveté du garçon. Imaginez un pâturage ouvert à tous. Bon, vous en avez partout ici, c'est merveilleux. On peut s'attendre à ce que chaque éleveur essaie de mettre le plus de bétail possible sur les terrains communaux. Cet arrangement peut fonctionner de manière raisonnable, satisfaisante durant des siècles, lorsque les guerres tribales, le braconnage ou les maladies maintiennent le nombre d'hommes et d'animaux bien en deçà de ce que les terres peuvent supporter. Donc là, on a une petite représentation de l'époque médiévale un peu stéréotypée, un peu légère. L'époque médiévale étant forcément pour lui quelque chose d'assez sauvage. Je continue. Mais le jour du jugement finit par arriver quand l'aspiration séculaire à la stabilité sociale devient enfin une réalité. Très drôle comme formulation. C'est alors que la logique inhérente des communs génère irrémédiablement la tragédie. En tant qu'être rationnel, chaque éleveur cherche à maximiser ses gains explicitement ou implicitement, plus ou moins consciemment. Il se demande quelle serait l'utilité d'ajouter un animal de plus à mon troupeau. L'éleveur rationnel ne peut que conclure que la seule conduite rationnelle pour lui est d'ajouter cet animal à son troupeau. Puis un autre. Telle est aussi la conclusion atteinte par chacun des éleveurs. Et c'est en cela que réside la tragédie des communs, puisqu'ensuite c'est de la ruine. Alors, Garrett Hardin n'a pas bien étudié les communs, puisque, je vous le rappelle, c'est une ressource, des règles sociales et une communauté. Donc, si on reprend l'exemple du pâturage, il est évident que si on se met en groupe, il est bien évident qu'on va devoir réguler le nombre de vaches, d'animaux, sur la ressource. Donc, il est évident que si on fait ça, le commun ne va pas durer. Et tout l'enjeu et le retour des communs, c'est d'arriver à créer des règles sociales durables. Et ça marche. Un exemple donné par David Boyler. Depuis 1224, en Suisse, le village de Torbel gère ses ressources forestières et ses eaux d'irrigation sous forme de commun. Donc une autogestion. Alors, très intéressant, parce que ça fait quand même 8 siècles que ça dure. Mais Boyler ne donne pas d'indication. C'est un peu frustrant. Donne pas comment, un, les règles se passent de génération en génération, et deux, quelles sont ces règles. Alors, du coup, je suis allé un peu fouiller sur Internet et j'ai trouvé un exemple. Je vous parlais de fromage tout à l'heure et de tarentaise. Il y a un article sur le blog de Mediapart sur le plan Pichu. Alors, je ne le connais pas très bien. En tous les cas, c'est un regroupement d'agriculteurs qui va gérer un pâturage communal sous forme de commun, c'est-à-dire qu'ils vont gérer ceci avec le nombre de vaches qui permet de renouveler l'herbage. Et derrière, vont essayer aussi de restaurer et de conserver un système d'irrigation qui était apparemment extrêmement défectueux. Alors, là-dessus, cet exemple-là, rapide, il est beaucoup plus long dans l'article, permet de voir aussi qu'on a plusieurs hiérarchies dans les communs. Une communauté, ce n'est pas forcément quelque chose d'horizontal. Là-dessus, il y a forcément les propriétaires des terres. Terres communales, mais peut-être aussi propriétaires terriens à côté, pour agrandir la ressource. Là-dessus, il y a forcément donc des agriculteurs qui ont des vaches et peut-être des tracteurs pour justement creuser ces systèmes d'irrigation. Et on peut imaginer que d'autres n'ont pas envie ou n'ont pas le temps d'aller creuser ce système d'irrigation. Et alors eux, c'est Benjamin Coriat dans un livre très intéressant qui est sorti il n'y a pas très longtemps, au lien qui libère, qui s'appelle Le Retour des communs, dit qu'il y a plusieurs niveaux de hiérarchie, plus ou moins institués. Et dans ce commun-là, on peut supposer qu'il y a des propriétaires, des gens qui sont vraiment investis physiquement dans la création de ce commun. Et ensuite, il y a peut-être des gens qui payent une cotisation pour avoir accès à cette ressource-là. On en parlait hier aussi avec le Hackerspace. On est à peu près dans une même logique. Des gens vont venir une fois ou deux donner au hackerspace pour payer le loyer, et d'autres vont venir tous les jours et donc payer une cotisation à l'association qui gère ce lieu. Voilà un petit peu sur les communs. Alors bon, vous me direz, et je le sens à vos regards, mais pourquoi il n'y a plus de communs aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle le système des enclosures, système si l'on est pernicieux à souhait. Je vais continuer. Et que Boyer, encore lui, va définir dans le terme suivant. Alors, l'enclosure, Yann en a parlé, c'est un terme qui vient d'un anglicisme, hein, évidemment, qu'on pourrait, comme synonyme français, c'est un phénomène d'accaparement. Le terme, donc, je cite Boyer, le terme d'enclosure est généralement associé au mouvement d'enclosure en Angleterre, un phénomène qui s'est répété à plusieurs reprises au cours de la période médiévale jusqu'au XIXe siècle. Et pour le dire crûment, le roi, l'aristocratie, la petite noblesse terrienne se sont appropriés les pâturages, les forêts, les gibiers ou l'eau traditionnellement exploités sous forme de commun par les villageois et les ont déclarés propriété privée. Les enclosures accaparaient parfois les ressources avec l'approbation officielle du Parlement britannique ou bien les prenaient parfois simplement de force. Et pour exclure les commoners, il était habituel de les exproprier de leurs terres et d'ériger des barrières ou des haies. Alors, c'est un phénomène un petit peu raccourci ici, c'est beaucoup plus riche que ça. Le livre de Dardot et Laval, qui s'appelle « Les communs pour une essai sur une révolution au XXIe siècle », en parle davantage avec une lecture marxiste assez intéressante. Pourquoi c'est un petit peu schématique? Parce que d'une part, ça dure plusieurs siècles. Il y a des phénomènes qui sont très divers. Et pour ce fait, pour être beaucoup plus précis et comprendre ce qui s'est passé en Angleterre, mais aussi en France, il faudrait justement avoir une histoire des communs et montrer en quoi, peut-être, les seigneurs donnaient des terres, enfin rendaient à disposition des terres aux paysans, qui leur permettait un peu mieux de survivre. Et que la révolution, on en a parlé avec Yann le premier jour où je suis arrivé, donc vendredi soir, s'est accaparé ces terres. La bourgeoisie a pris les terres au moment de la révolution. Pour ce qui est de l'Angleterre, les paysans, eux, vont partir dans les grandes villes anglaises et seront les ouvriers des révolutions industrielles et vont être la chair à canon, pour le dire crûment, des deux révolutions industrielles anglaises. Alors, aujourd'hui aussi, on repère des enclosures beaucoup plus pernicieuses. Je pense à l'eau dans la cordillère des Andes. L'exploitation des terres rares, du cuivre au Chili, s'est fait évidemment en pompant les nappes phréatiques qui sont à proximité du lac d'Atacama, enfin du désert d'Atacama, et on les a rendues impropres à la consommation après traitement de ces eaux-là, ce qui a fait que les habitants en proximité de ces carrières-là ont dû quitter ces régions qui sont aujourd'hui complètement inhabitables. Il y en a d'autres encore beaucoup plus pernicieuses encore. C'est ce que Boyer et d'autres appellent le phénomène d'enclosure d'espaces et d'infrastructures publiques. Exemple récent, je suis toulousain encore, c'est vrai que je vais parler de Toulouse, c'est la privatisation de l'aéroport, évidemment, c'est les autoroutes. Et un exemple qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais en France, mais ça arrive chez nos voisins italiens, c'est les stades de sport baptisés Land Rover Arena à Bologne. Je crois même qu'il y a une station de métro en Espagne qui a un nom comme ça, d'un téléphone portable, je ne sais pas, je ne l'ai pas retrouvé. Bref, vous comprenez un peu le principe. Les autoroutes sont également un phénomène d'infrastructure qui a été accaparé par des sociétés privées, au détriment, évidemment, de la communauté que nous sommes tous ici. Alors, le numérique n'échappe pas à la règle, bien au contraire. Si je fais un petit sondage ici, je suppose que j'aurai 90% de personnes utilisant Microsoft. Et les 10% restants, Apple. Peut-être qu'1%. Et puis le déréductible gaulois que je suis sur le nuque, mais ça plante, comme vous voyez. Donc c'est pas très bon. Ça plantait pas, mais bon. C'est super le nuque. Comment Microsoft a créé un marché aussi énorme que 90% d'usagers aujourd'hui encore avec tout ce qui suit? Si vous achetez un ordinateur, vous allez voir le marchand et vous lui disiez je veux Linux, il va vous vendre un ordinateur très cher. Vous aurez un ordinateur vide, sans système d'exploitation. Si vous n'avez pas le choix, quand vous achetez un ordinateur entrée de gamme, vous n'avez pas le choix, vous avez Linux. Enfin, vous avez Windows, pardon. Et vous payez la licence Windows, même si vous ne la voulez pas. Et derrière, évidemment, ben, on vous offre, entre guillemets, le pack Office. Le fameux trio là, horrible. Word, Excel et PowerPoint. C'est pas un PowerPoint, ça, c'est du LaTeX. Donc derrière, y a évidemment, on a essayé de faire des solutions libres. Il y a OpenOffice. C'est pas très joli, c'est pas très sexy, mais bon, ça marche. Et ça marche. Ça marche. Et ça permet justement de se libérer du joug, d'enlever un boulet à son pied et de se détacher un peu de Microsoft. Je trouve que la solution OpenOffice n'est pas très bien parce que c'est une copie d'un logiciel propriétaire. On pourrait peut-être inventer autre chose. Et c'est là où, justement, peut-être que le logiciel peut créer d'autres innovations. On va y venir. Du coup, j'ai oublié de parler des pommes. Mais bon, on en parlera plus tard. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel ? Je vais faire court. Un logiciel, c'est quand j'appuie sur une touche, quand j'appuie sur un A, il y a un A qui apparaît. Donc c'est un signal, un signal d'entrée, puis un signal de sortie qui a une interaction avec soit un humain, soit une machine. Si vous imprimez un papier, il y a une interaction entre l'ordinateur et l'imprimante. Ça, donc, c'est un signal. C'est une œuvre de création aussi. Une œuvre de création, c'est-à-dire que il y a des gens qui codent derrière. Et le code, c'est un langage et c'est une œuvre originale. C'est aussi une œuvre qu'on appelle incrémentale. C'est les mises à jour que vous mettez sur le logiciel. Et quand vous passez de Windows 7 à Windows 10, on fait aussi des mises à jour pour que vous ayez Word qui fonctionne sous la version de votre système d'exploitation. Et c'est un mode de connaissance, puisque derrière, il y a ce qu'on appelle les algorithmes. C'est quoi ? C'est une formule mathématique mise en place par des informaticiens. Et en gros, c'est d'un côté la recherche fondamentale, de l'autre, la recherche appliquée qui va utiliser les algorithmes créés par la recherche fondamentale pour les insérer dans le logiciel. Et de suite, là, on voit le problème qui peut apparaître. Si on a un brevet sur un algorithme, comme aux États-Unis, il va être quasiment impossible de l'utiliser dans un logiciel. Et c'est là où c'est un frein à l'innovation. Alors évidemment, les grandes entreprises qui ont des grands secteurs de R&D comme Microsoft, ça ne leur pose pas de problème. Et donc, du coup, il y a un monopole qui s'installe aussi là, et qui bloque l'innovation. Donc, le logiciel libre, c'est également de réfléchir à une autre façon de voir et de concevoir l'industrie, en dehors du dépôt de brevets. Et là-dessus, évidemment, on va aller voir du côté de Richard Stallman, qui rappelle qu'il y a quatre libertés importantes. La liberté d'exécuter le programme, donc vous ouvrez Word, ça fonctionne. La liberté d'étudier le code, donc on ouvre le capot, on regarde comment ça marche. La liberté de le copier, ça aussi, le logiciel libre, vous pouvez le copier, donner à votre voisin. Et la liberté de le modifier, ça, il faut être un petit peu connaisseur, mais on peut le modifier en connaissant un peu du code. On peut le faire. Là-dessus, autrement dit, on pose les jalons réglementaires d'un commun. Il y a une ressource, c'est le logiciel. Les règles sociales, c'est le désir. Et la communauté, ben, c'est une communauté de passionnés. Ingénieurs qui vont aussi, avec pas mal de temps libre aussi, sur leur temps libre, créer des logiciels libres. Alors, tout de même, bon, je parle de bénévoles, mais il y a quand même quelques modèles économiques, j'en parlerai, je pense, au temps du débat. et à la Mozilla Foundation, celle qui fait Firefox, logiciel libre. La marque est déposée, Firefox, mais tous les logiciels dessous sont libres. Et ils ont 1000 employés, ils signent des accords avec les grandes entreprises de la Silicon Valley et payent les employés avec cet argent-là. Il y a un exemple francophone, Framasoft. Framasoft, une association de loi 1901, a 3 employés qu'elle paye avec des dons donnés à Framasoft, vend des t-shirts aussi. C'est une entreprise d'éducation populaire qui vise à développer et valoriser le logiciel libre. Ils ont une campagne extrêmement intéressante qui s'appelle Dégoogleisons Internet, en proposant des solutions contre les logiciels et les services que vous avez sur Internet. Google Documents, par exemple, vous pouvez le transformer en Framapad. Google Documents, si on va sur la question de la surveillance et de la privatisation des contenus, évidemment, Google récupère vos contenus. Un autre exemple, Doodle, on n'est plus chez Google. Doodle, que vous connaissez pour tout ce qui est rendez-vous. Il y a Framadat, qui existe aussi, etc., etc. Donc, ils ont une campagne qui va durer jusqu'en 2015. Prévu, ils vont essayer de faire l'équivalent des Dropbox, par exemple, également. Et là-dessus, donc, ça marche sur des dons. Il y a énormément de modèles économiques qui fonctionnent sur le libre et qui dépassent le numérique. La marque Tesla, qui est une marque de voitures électriques, a rendu en 2014 ses plans libres. Non pas parce que elle n'a pas peur de la concurrence, bien au contraire, mais la concurrence pour elle actuellement, c'est les moteurs thermiques, c'est pas les voitures électriques. Donc si elle arrive à créer un cercle vertueux et équitable avec d'autres concurrents dans le monde de l'automobile électrique, eh bien elle pourra se partager la part du gâteau, mais la part du gâteau sera beaucoup plus importante. Imaginez un marché à 1 million de voitures, si elle prend même que 10%, ce sera beaucoup plus important que les 10 000 voitures vendues aujourd'hui et qu'elle ne vende pas. D'autres exemples, Decathlon, que vous connaissez tous, a une plateforme collaborative. Si vous achetez du Decathlon, vous pouvez leur dire, leur conseiller des choses. Et eux, derrière, vont essayer de mettre des choses en place des choses. Leurs vêtements sont sous licence Creative Commons. Donc, on peut les étudier. Alors, je vais continuer. Pour conclure avec le logiciel libre, parce que... Alors, il est difficile de dire actuellement si le logiciel libre est vraiment la solution à la crise actuelle de l'innovation et du capitalisme. Et le concept de commun créé par certains cercles vertueux et des pratiques de développement de logiciels libres qui pourraient bien contrecarrer la guerre des brevets que se livrent Samsung et Apple. Je vous rappelle, c'est Samsung qui achète des brevets mais qui n'utilise pas ces brevets-là, par exemple. Apple fait de même pour bloquer la concurrence, ce qui est quand même un petit peu scandaleux puisqu'il y a pas mal d'innovations qui n'est pas utilisée, qui ne sera jamais utilisée. Google aussi le fait. Bien que le logiciel libre repose sur une forme de gratuité, de modèle économique émergent pour créer de l'activité et de l'emploi qualifié, évidemment, on peut se demander si ça n'a pas de phagocyté par le système capitaliste. On peut imaginer que quelqu'un qui crée un logiciel libre va délocaliser sa hotline au Maroc ou en Inde et payer ses employés au lance-pierre ou défiscaliser, enfin, l'optimisation fiscale aux îles Vierges. Donc évidemment, c'est un cercle vertueux. Il y aura évidemment, dans ces communs-là, des outsiders qu'il faudra évidemment essayer d'être vigilant là-dessus. Alors, je passe maintenant à la question de la connaissance et de la culture. Alors, vous parlez... 5 minutes.
Après, il faut laisser un peu de place au débat.
Pour faire vite, Amazon et Apple... mettre ce qu'on appelle les DRM, les Direct Write Management, sur les livres que vous achetez et les musiques que vous achetez sur Amazon, sur iTunes. Donc vous n'avez pas la possibilité d'échanger cette musique-là, vous n'avez pas la possibilité de la prêter et vous avez un nombre de copies limité. Je crois que c'est Georges Clooney qui s'était offusqué puisqu'il ne pouvait pas transmettre sa discographie d'iTunes à ses enfants. Et vous non plus d'ailleurs. Par ailleurs, au niveau de la connaissance universitaire, il faut le savoir, les universitaires payent parfois pour publier. On paye pour travailler. Et derrière, les bibliothèques payent l'accès à des bouquets de revues. Donc on paye doublement et c'est quand même un problème à l'époque où les universités sont en crise. Alors, il y a quelques solutions dans le domaine de la culture. Alors, vous avez sûrement entendu parler du crowdfunding, je ne vais pas y revenir. Dans le modèle de la musique, le bas blesse surtout au niveau des producteurs qui s'enrichissent énormément. Il y a des systèmes et des plateformes comme Bandcamp qui les suppriment tout simplement, c'est-à-dire que le musicien met sa musique sur Bandcamp et vous pouvez l'acheter et l'écouter avec un modèle ouvert, des formats qui sont de très bonne qualité. Il y a au niveau de la littérature, pour faire vite, il y a une maison d'édition Publi.net de François Bon qui diffuse ses livres sous des formats ouverts, qui permet de les prêter, de les offrir, de les partager. Dans le domaine du cinéma, le crowdfunding a marché pas mal, notamment sur quelques films, je pense à The Cosmonaut. Le problème, c'est dans les licences libres sur le cinéma, quand vous déposez un film sur licence libre, vous n'avez pas accès aux aides du CNC, ce qui est un peu un scandale. Et enfin, dans le jeu vidéo, vous avez souvent des modèles propriétaires, le code est propriétaire, mais vous avez un accès gratuit au jeu. Enfin, le domaine public, là-dessus, il y aurait énormément de choses à dire. Le calcul est très compliqué pour savoir qui est dans le domaine public. Si les gens sont morts au combat, on met 30 ans de plus ou 70 ans. Et c'est inégalitaire au niveau des pays. 70 ans en Europe, 100 ans au Mexique. Si vous avez un auteur qui est mort à 98 ans au Mexique, il n'est pas encore dans le domaine public en France. Donc c'est donc très compliqué. Il faut, je pense, se battre pour que la connaissance, le domaine public, c'est vraiment quelque chose où on se met sur les épaules des géants, le rendre accessible de manière universelle, donc on a homogénéisé le droit d'auteur, et deuxièmement, le rendre beaucoup plus clair et moins difficile de calcul. Je ne parle pas des œuvres collectives. Je vais m'arrêter là. Et,
Alors, ce que je vous propose, je crois qu'on a eu un exposé qui nous a montré l'un des paradoxes du numérique, c'est-à-dire que les ressources en savoir, le numérique permet... C'est les savoirs, les savoir-faire de les mettre à disposition, c'est des ressources qui sont quasiment illimitées et renouvelables, et le capitalisme les raréfie, exprès, pour faire son profit, donc met les fameuses enclosures. Alors que par contre, sur les ressources naturelles, qui elles ne sont pas toujours, elles sont pas illimitées et pas toujours renouvelables, là par contre on y va à fond. Donc il y a ce paradoxe-là, et je dirais on y voit la contradiction des choses, et la crise et la mise en cause des rapports sociaux autour de ça. Je laisse la parole à Alain, puis après on en ouvrira le débat.
Moi je serai forcément plus court, parce que d'un point de vue, du point de vue qui est le mien, voilà, c'est-à-dire qui a la charge de réfléchir à une réponse en termes à la fois politique et culturel d'une force politique comme le Parti communiste, à cette question qui est une question fondamentale. Je ne vais pas me lancer dans un grand discours philosophique, mais la révolution numérique, c'est une rupture dans le processus d'hominisation. Voilà. Donc c'est pour nous, avant d'être une révolution technologique, et exclusivement une révolution technologique, c'est d'abord une révolution de nature anthropologique, c'est-à-dire qu'elle va bouleverser depuis tout le processus d'hominisation lié à l'outil qui prolonge la main, alors que là on est dans une rupture totale puisqu'il s'agit d'une projection de l'intelligence humaine, jusqu'à le fait que tout le paysage culturel au sens très large du terme, mais au sens étroit du terme, le paysage artistique, est profondément bouleversé par cette révolution-là, sans compter bien entendu les comportements sociaux, les pratiques sociales, les pratiques de l'espace, les pratiques de la ville, le travail, etc. Bref, je ne vous refais pas le discours que vous connaissez tous par cœur. Et effectivement, en fonction de ce que dit Yann, il y a un vrai choix de civilisation. Alors moi, je vais vous dire d'entrée de jeu une sorte de démarche un peu d'humilité. Voilà. Nous avons plus de questions que ce que nous avons de réponses aujourd'hui. Voilà, je le dis très franchement et très clairement, d'autant plus que nous avons un peu loupé le coche. À l'époque, au moment de la montée en puissance de l'audiovisuel dans les années 50-60, quelque part, on s'est positionné assez rapidement. Et la création, par exemple, du service public de l'audiovisuel, quelle que soit sa situation actuelle, hein, qui pose de très très gros problèmes, et nous sommes en train de perdre sans doute cette bataille que nous avions commencé, sur laquelle en tout cas nous avions commencé à marquer des points. L'existence d'un service public de l'audiovisuel a été un outil assez extraordinaire au début de cette révolution. Voilà. Ce n'est pas le cas avec l'Internet. Aujourd'hui, je ne sais plus comment on les appelle, les majors.
Les GAFA.
Les GAFA. Les GAFA, voilà. Google, Amazon, etc. Ont une mainmise considérable. Considérable. Et on est face à une situation où on a pris du retard et où on ne sait pas très bien comment se situer, comment s'y prendre. Regardez ce qui s'est passé. C'est juste une anecdote parce que ça ne résume pas l'ensemble des enjeux culturels autour de ça. Mais ce qui s'est passé dans l'affaire de la numérisation de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, où un ministre de la Culture, dont c'était vraiment pas la préoccupation, qui sont tamponnés le coquillard royalement, le Frédéric Mitterrand, pour ne pas le nommer, moi je pense qu'il a obéi tout simplement à une logique globale gouvernementale qui a consisté tout simplement à laisser le champ libre à Google. On aurait pu mener une bataille là-dessus. Cette bataille, on l'a un peu entamée, on a un peu essayé, mais franchement, Jean-Noël Jeannonet, soyons honnêtes, il a été un peu seul dans ce combat. Voilà. Et c'est un combat perdu. C'est un combat perdu. Donc on est face à un choix de civilisation. Et face à cette sorte de... Je suis désolé d'être un peu pessimiste dans mon propos liminaire, mais on est face à un choix de civilisation, c'est-à-dire que le capitalisme veut faire de l'outil numérique un outil d'hyper-marchandisation, et il a marqué énormément de points de ce point de vue-là, et nous voulons lui opposer un bien commun, voilà, on m'en parlait à l'instant, un bien commun qui serait fondé sur une volonté émancipatrice, le partage, l'autonomie individuelle, mais aussi collective. Tout ça, c'est effectivement quelque chose. D'ailleurs, par parenthèse, jamais l'autonomie individuelle avec l'Internet. Jamais l'autonomie individuelle n'a été aussi liée au lien social et au partage et au vivre ensemble. Voilà. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on pense, c'est une donnée très importante. Voilà. Donc tout ça, ça m'amène à dire que la réflexion des communistes, qui est très très loin, je le répète, j'insiste là-dessus, qui est très très loin d'être achevée, on est dans un véritable processus. On a plusieurs choses, je voudrais quand même vous les donner, même si c'est rapide, mais c'est important quand même qu'on le rappelle. Peut-être avant quand même, dire une chose, c'est qu'en matière culturelle, le marché a toujours, parce qu'on sait ce qui se passe hors Internet du point de vue de la marchandisation, le marché a toujours échoué à faire vivre la diversité culturelle, mais aussi la diversité de création. Et on sait bien, et là, très largement, et le marché a très largement échoué à faire vivre les artistes eux-mêmes et les créateurs eux-mêmes. Il a fallu des combats considérables. Le combat de la mise en place d'un service public de la culture, de l'art et de la culture. Service public, au passage, c'est important, je le dis, parce que quand je vais revenir sur mon propos, sur les propositions un peu concrètes, un peu immédiates, service public de l'art et de la culture, dont les prémices apparaissent avant-guerre et tout de suite après-guerre, et puis ensuite avec l'accélération, avec la création du ministère à la fin des années 50, qui n'est pas un service public étatiste. Prenez bien en compte cette affaire-là, parce que tout à l'heure, je suis sûr qu'on va avoir un débat à partir de la proposition que je vais faire, puisque j'ai déjà eu ce débat, on a déjà eu ce débat ensemble hier. Voilà. Donc, ce n'est pas un service public étatiste. On ne raisonne pas en termes de grande nationalisation de je ne sais quoi, et en termes d'étatisation de ce qui doit relever d'une autonomie individuelle et d'une autonomie très large du processus créatif et du travail des artistes et des créateurs. Mais c'est important de noter quand même que le marché a échoué à faire vivre cette diversité, cette création, qu'il a fallu l'intervention de la puissance publique. Or, moi, je prétends, de ce point de vue-là, là j'ai une petite certitude, c'est que l'Internet, dans l'état actuel des choses, échoue aussi à faire vivre cette diversité, à assurer la rémunération des artistes, à créer les conditions d'un véritable partage. Voilà, c'est la raréfaction dont parlait Yann à l'instant. On n'est plus dans un processus de marchandisation, et ce processus de marchandisation, il suppose ça. Voilà. Alors, à partir de là, que dire et que faire ? Voilà. Moi, je suis convaincu qu'il faut mener des grands combats pour obliger les GAFA à payer des impôts, ne serait-ce que ça, ce que l'on n'arrive pas à faire encore aujourd'hui. Et Fleur Pellerin, quand elle est arrivée au ministère, elle tient un discours un peu plus nuancé parce qu'elle s'est pris quand même quelques baffes. Voilà. Mais quand elle est arrivée au ministère, on lui a dit, mais enfin, c'est un scandale, Google ne paye pas, Amazon paye, etc. Elle a dit, mais vous ne pouvez pas reprocher à des entreprises de pratiquer l'optimisation fiscale. Voilà. Propos absolument remarquable de la part d'un ministre de la Culture, d'un gouvernement qui se prétend se situer à la gauche de l'échiquier politique. Voilà. Donc, et je pense que fondamentalement, elle n'a pas changé d'avis. Voilà. Fleur Pellerin est sans doute une des ministres du gouvernement qui est la plus sur la... qui est, je pense, totalement sur la ligne de Macron. Voilà. Elle fait partie de cette espèce de vision algorithmique de l'économie et de l'action publique. Voilà. Donc, c'est pas de ce côté-là qu'on va compter pour se rassembler et se battre sur ces questions. Mais au-delà des combats que nous pouvons mener aujourd'hui, au-delà de... Et peut-être parce qu'il faut aller dans le sens de ce que disait notre ami à l'instant sur la défense de tous ceux qui agissent pour une autre économie que l'économie dominée par les GAFA, je pense que la question à la fois de sa définition, de son contenu, de son périmètre, de ses actions, la question de l'existence d'un service public et des plateformes publiques de téléchargement, d'un service public de l'Internet, est une question qui est devant nous. Mais je suis très prudent quand je dis ça. Encore une fois, je dis tout net que pour moi, il ne s'agit pas d'une proposition d'étatisation du processus. D'abord, elle est totalement irréaliste, et en plus, elle ne correspond pas à notre ambition d'émancipation, de partage, de libre circulation et de libre diffusion. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut penser et concevoir quelque chose qui soit un outil pour essayer de construire le bien commun. Le bien commun, très honnêtement, j'ai du mal à penser qu'on peut le construire. Certes, il faut qu'on soutienne toute l'économie indépendante de l'Internet, mais je pense que c'est important de le faire. Je ne sous-estime absolument pas cette bataille-là, mais de la même manière, par exemple, qu'on soutient les AMAP contre les grandes surfaces. Voilà. Mais franchement, on n'a pas aussi des choses à dire sur les grandes surfaces. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut aussi qu'on s'attaque au mastodonte, qu'on s'attaque à l'emprise financière. Alors, à quoi pourrait servir un tel outil ? Encore une fois, je ne suis incapable de vous dire aujourd'hui comment le configurer, sur quelle base, etc. Mais je pense par exemple que le dépôt légal des œuvres, ça n'existe pas, dépôt légal des œuvres numérisées. Les artistes, ils sont là à se battre en permanence pour essayer de faire respecter les choses. Permettre la diffusion et garantir même la diffusion des fameux, notamment par l'usage des standards libres et ouverts. Respecter les droits d'auteur, faire respecter les droits des auteurs, des artistes-interprètes, le droit moral. Vous savez que nous, on a un droit moral qui s'oppose au copyright à l'anglo-saxonne, même si le copyright, soyons pas trop méchants, a permis de défendre les intérêts des artistes américains notamment. Mais notre droit moral, il va beaucoup plus loin que le copyright. Voilà. Mais c'est aussi, le bien commun, c'est aussi la libre circulation, la libre accessibilité. Comment assurer aujourd'hui des rémunérations pérennes des créateurs? Et comment faire pour que cette rémunération pérenne des créateurs ne s'oppose pas à la libre circulation, à la gratuité, à la question de la gratuité, au potentiel émancipateur que recèle cette démarche et cette dimension de gratuité. Que, faisons en sorte, par exemple, on ne peut pas faire ne pas faire le constat aujourd'hui que ce qui circule sur le net, y compris à travers tout ce qui est les VOD, etc., ça gonfle plus les profits des actionnaires que ça rémunère correctement les artistes et les interprètes. Et ça se fait aussi au détriment des producteurs indépendants, des labels indépendants, de tous ceux qui veulent travailler sur une autre économie. Voilà. Je crois qu'il s'agit aussi de favoriser toutes ces interfaces, d'ailleurs. Je pense que, de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non seulement du point de vue de la diffusion, mais aussi du point de vue des conditions mêmes de la production. Les conditions mêmes de la production et bien évidemment des usages. Voilà. Mais après, ça peut aussi servir cet outil public à rendre possible, par exemple, une comptabilité précise de l'audience, qui soit complètement de l'audience des œuvres, qui soit complètement indépendante. Voilà. Et peut-être aussi s'inscrire dans des actions de soutien dans le cadre d'une politique d'aide à la création. Parce que, encore une fois, moi, je refuse de considérer... L'Internet est un très, très grand outil culturel. À avoir oublié que l'audiovisuel était un très grand outil culturel, on a laissé se développer ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le moins-disant culturel, c'est-à-dire la connerie en barre érigée en pensée critique et en culture, quand vous avez aujourd'hui la télé-réalité et tout ce que vous voyez, on voit bien qu'on a quand même échoué sur ce terrain-là. Donc l'objectif de faire en sorte que la politique, d'ailleurs au passage, qui s'occupe de l'Internet, principalement au gouvernement, c'est la ministre de la Culture. On voit bien qu'il y a un enjeu considérable. Alors soit on a une action publique qui vise tout simplement à gérer et à essayer de limiter au maximum que l'on peut faire l'action des GAFA, ou on a une politique de gauche, celle que nous proposons, mais encore une fois, nous proposons de l'élaborer collectivement parce qu'elle n'existe pas réellement, qui nous permette de prendre l'offensive contre les GAFA et de le faire dans le cadre d'une politique culturelle plurielle qui favorise et développe la création, qui développe la démocratie culturelle et qui donc, sur ce terrain-là, lutte contre la fracture numérique et qui soutient et qui favorise la diversité culturelle dans toute cette dimension, à la fois culturelle, ethnique mais aussi disciplinaire, en termes disciplinaires. Voilà. Donc je veux juste dire que je veux alerter sur le fait qu'il n'y a pas d'un côté une politique culturelle publique et de l'autre côté une politique liée à l'Internet. Il faut qu'on ait une vision, si j'ose dire syncrétique des choses, complètement intégrée et qu'on ait une vision globale dont le fondement, c'est la recherche et la construction d'une société d'émancipation et d'autonomie humaine. Voilà. Et de ce point de vue-là, je termine juste sur une chose simple, parce qu'on va me dire, fonctionnement, financement, etc. Ben nous, on va faire le contraire de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. On propose, par exemple, que vous prenez aujourd'hui le Centre national de la cinématographie, le CNC. Ça fait des années que nous proposons que le CNC redevienne un organisme mutualisé avec toute la profession qui administre le CNC. On peut proposer, par exemple, que ce service public de l'Internet soit un service qui soit non seulement géré par les usagers de l'Internet, mais aussi par les structures syndicales, les SACD, les, voilà, vous savez, toutes ces sociétés qui gèrent les intérêts des artistes, etc., d'associer tout le monde à ce processus-là, et bien évidemment de le faire financer par des taxes lourdes sur les fournisseurs d'accès, sur les matériels, etc., d'avoir une vraie réflexion sur le financement. On n'est pas dans je pense qu'il ne faut pas être complètement dans le ce qui, au passage, ce que Madame Pellerin manifestement a oublié d'intégrer dans son logiciel. Voilà. Vous savez que Madame Pellerin a une passion pour les algorithmes, surtout ceux qui lui permettent de calculer les baisses en matière culturelle. Voilà. Nous proposons effectivement qu'au contraire, on ait une vision offensive d'une politique culturelle qui intègre l'Internet comme un grand enjeu politique d'émancipation et un grand enjeu culturel. Voilà. M'excusant de...
Alors, justement, de vous passer la parole, je voudrais juste faire un petit contrepoint à ce que dit Alain, mais ça fait partie du débat. Moi, je suis moins pessimiste que lui. D'abord, parce que je crois véritablement les GAFA sont à la fois extrêmement forts, ces capitalismes de plateforme, mais en même temps extrêmement fragile. C'est extrêmement fragile parce que Google ne vit que de vos requêtes. Il ne vit que parce que vous allez sur cette plateforme. Google ne produit pas de documents. Il ne produit rien, Google. YouTube ne tourne pas de films, ne tourne pas de vidéos. Uber ne donne qu'un service, mais ce service, c'est la mise en connexion des gens. Or, il y a des solutions alternatives qui se mettent en place. La municipalité de Séoul, elle s'est débarrassée d'Uber, elle a mis en place, c'est une municipalité de gauche, une coopérative qui gère toutes les questions de transport. Et il y a des solutions qui se mettent en place, il y a des choses qui s'organisent. Il y a une réponse, alors je sais que c'est un peu polémique, mais il faudra avoir cette polémique. L'histoire des licences Creative Commons, c'est aussi une réponse. C'est une réponse qui est mondiale. Parce que la deuxième chose qu'il faut bien se dire là-dedans, c'est que la force de plateformes, ce sont des plateformes mondiales. Et on ne peut raisonner l'Internet que du point de vue mondial. Donc, et y compris, c'est une réponse à tous ceux qui expliquent qu'il faut qu'on soit enfermé dans la nation, etc. C'est même pas une question européenne si on ne prend pas. Et les gens peuvent se grouper mondialement. C'est ce qui est nouveau dans la révolution. Et c'est pour ça que je parle de révolution numérique et non pas de révolution informationnelle, c'est l'effet réseau. C'est l'effet réseau. C'est qu'à un moment donné, des millions de gens peuvent, de toute la planète, se battre sur quelque chose ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça rend, je dirais, le système de la neutralité du net, qui est à préserver, qui est un véritable combat, permet justement d'avoir le fait qu'il n'y ait pas de centre. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, sur la gouvernance d'Internet, les choses, elles bougent. Jusqu'ici, c'était la ICANN. Enfin, c'est ce qui décidait des noms de domaines, etc. C'était aux États-Unis, c'était une société à but non lucratif qui dépendait du ministère du Commerce américain. Les Brésiliens ont emmené les pays émergents. Ils ont créé en 2014 un congrès sur la gouvernance d'Internet. Alors ça, on vous a pas parlé dans les médias parce que les médias ne s'intéressent jamais à ça. Mais ils ont fait le Brésil a été initiative d'un congrès mondial sur la gouvernance d'Internet en 2014. Et ils ont poussé. Les Américains sont en train de céder sur l'ICANN. Ils sont en train de céder, ça ne dépend plus maintenant du ministère du Commerce américain, et ils ont été obligés d'ouvrir la gouvernance d'ICANN. Donc on voit qu'il y a des processus et il y a une société civile qui s'organise très vite. Et les petites musiques, oui, bien sûr, il y a un problème de créer des écosystèmes qui arrivent à vivre d'eux-mêmes. Et pour l'instant, ces écosystèmes sont encore fragile et marginal. Mais en même temps, ça va très vite. Moi, je vais vous dire, les constructeurs automobiles, ils ont très peur de la Wikispeed, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs du monde entier qui se sont mis en connexion pour faire un projet de voiture libre et disponible pour tout le monde. Et ben, je vous dire, les constructeurs automobiles, ils ont la trouille par rapport à ça. Les labos pharmaceutiques qui vendent des prothèses de bras à 40 000 euros, et ben, il y a un projet citoyen, alternatif, qui est né dans un Fab Lab en France, qui s'est complètement internationalisé et qui va produire les mêmes prothèses beaucoup plus efficaces, 200 euros, y compris pour tous les pays où on ne peut pas avoir ça. Donc il se passe des choses. Et il faut pas et je pense véritablement il se passe des choses, mais il faut que le connecter avec de la politique. Parce que, en même temps, les gens qui sont les acteurs de ça sont totalement dégoûtés de la politique. Je vais parler trop longtemps, je vous laisse la parole.
Est-ce que je peux
juste un... non, juste pour le débat quand même, parce que...